VOA Afrique, Washington DC, bonjour, au micro Idrissa Seydoudia pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui. Ici aux États-Unis, 7 policiers de Rochester ont été suspendus jeudi en lien avec l'arrestation et la mort par asphyxie d'un Africain-Américain de 41 ans, Daniel Proud, en mars dernier. C'est ce qu'a annoncé la maire africaine-américaine de cette ville de l'État de New York, dénonçant un acte raciste. La famille de la victime a diffusé cette semaine les images d'une caméra d'intervention qui montre un groupe d'officiers mettre une cagoule sur la tête de Proud, apparemment dans le but d'empêcher une éventuelle transmission salivaire du coronavirus, alors que l'homme est agenouillé, menotté et nu. Par ailleurs, le candidat démocrate à la présidentielle américaine du 3 novembre, Joe Biden, a déclaré qu'il avait parlé jeudi au téléphone avec Jacob Blake, l'Africain-Américain grièvement blessé par un policier blanc à Kenosha, lors d'une visite dans cette ville récemment secouée par des émeutes dans l'État-clé du Wisconsin. Après avoir rencontré en privé sa famille, M. Biden a dénoncé ce qu'il a appelé le racisme sous-jacent qui ronge les États-Unis, tout en martelant son optimisme. Selon lui, le pays pourrait transformer ce point d'inflexion en opportunité pour plus d'égalité. Pour sa part, son rival républicain, le président Donald Trump, a prononcé jeudi soir un discours à Latrobe, en Pennsylvanie, un autre état clé. Pas de foule, pas d'enthousiasme pour Joe aujourd'hui. Loi et ordre a tuté M. Trump. Il a visité Kenosha mardi, mettant l'accent sur son soutien aux forces de l'ordre et le rétablissement de l'ordre. Et puis, la Maison-Blanche et le président Trump ont catégoriquement démenti jeudi que le président est qualifié de « losers » et de « crétins » des soldats américains morts pendant la Première Guerre mondiale, comme l'affirme le magazine The Atlantic, qu'ils ont vivement dénoncé. Attaqué pour son laxisme face à la désinformation et la manipulation de contenu, le géant des réseaux sociaux, Facebook, a annoncé jeudi qu'aucune nouvelle publicité politique ne pourrait être diffusée sur sa plateforme dans la semaine précédant la présidentielle américaine du 3 novembre. La Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire a annoncé dans un communiqué avoir reçu 44 dossiers de candidature à la présidentielle du 31 octobre et les a transmis jeudi au Conseil constitutionnel, juge de l'éligibilité des candidats. Le président Alassane Ouattara, qui brigue un troisième mandat, doit rencontrer ce vendredi en France son homologue Emmanuel Macron. Nous y reviendrons dans un instant. Au Mali, le président déchu, Ibrahim Boubacar Keïta, a quitté jeudi la clinique Pasteur de Bamako, où il était hospitalisé après avoir subi, selon les médecins, un court AVC. Il pourrait se rendre aux Émirats Arabes Unis pour des soins supplémentaires. 4 autres détenus sont morts dans des prisons égyptiennes entre le 31 août et le 2 septembre, a indiqué jeudi Human Rights Watch, dénonçant la négligence des autorités pénitentiaires malgré des demandes fréquentes de soins convenables selon l'ONG de défense des droits de l'homme. Plusieurs dirigeants d'entreprises pharmaceutiques, dont Albert Bourla, directeur général de Pfizer, et Kenneth Frazier, PDG de Merck, se sont engagés jeudi à ne rogner sur rien et à respecter les normes de sécurité dans la course au vaccin contre le COVID-19, en dépit d'appels parfois insistants à lui préférer la rapidité. Bahreïn va autoriser les Émirats arabes unis à survoler son territoire en provenance ou à destination d'Israël 3 jours après le premier vol direct entre ces deux pays et au lendemain d'une décision similaire de l'Arabie saoudite. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. La suite de nos informations. En Guinée, le président Alpha Condé a déposé ce jeudi son dossier de candidature devant la Cour constitutionnelle après avoir annoncé cette semaine sa décision de briguer un troisième mandat. Jacques Aristide.
L'image a retenu l'attention à Conakry hier. Du palais présidentiel, Alpha Condé a marché jusqu'à la Cour constitutionnelle pour ce dépôt de candidature aux côtés de son épouse Hadja Djenné, du président du Parlement Amadou Damaro Camara et de plusieurs ministres. Le chef de l'État de 82 ans se fera examiner par un collège de médecins qui confirmera qu'il est apte à diriger le pays pendant encore quelques années, d'après un membre de son entourage. Après des mois d'ambiguïté, Alpha Condé a confirmé sa candidature mercredi dernier, ce qui a immédiatement provoqué des échauffourées dans la capitale, avec un bilan d'au moins un mort. Depuis l'année dernière, les manifestations anti-Condé ont coûté la vie à des dizaines de civils. Un collectif dénonce la révision constitutionnelle comme un coup d'État institutionnel. La nouvelle constitution, comme la précédente, limite le nombre des mandats présidentiels à deux, mais les partisans d'Alpha Condé arguent que le changement remet les compteurs à zéro. Les ténors de l'opposition guinéenne n'ont pas encore indiqué s'ils comptaient l'affronter dans les urnes ou boycotter le scrutin.
Le président français Emmanuel Macron reçoit ce vendredi à l'Élysée son homologue ivoirien Alassane Ouattara, 78 ans, candidat à un troisième mandat à l'élection du 31 octobre. Le point avec Eric Manirakidza.
Emmanuel Macron avait salué en mars dernier la décision historique d'Alassane Ouattara de renoncer à briguer un troisième mandat, estimant qu'il donnait l'exemple. Le président ivoirien avait dit vouloir transférer le pouvoir à une jeune génération, mais en août, Alassane Ouattara a décidé de se représenter après le décès soudain de son premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui était le successeur et candidat désigné du parti au pouvoir. Depuis, le président français ne s'est pas exprimé sur ce revirement. La semaine dernière, l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro a dénoncé dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron le silence assourdissant de la France sur la situation en Côte d'Ivoire. L'annonce de la candidature de M. Ouattara a provoqué des manifestations qui ont dégénéré en violence, qui ont fait une quinzaine de morts.
Au Cameroun, 7 civils ont été tués dans un village de l'extrême nord du Cameroun quand un jeune kamikaze a fait exploser sa bombe lors d'une attaque. C'est ce qu'ont indiqué jeudi les Nations Unies et un officier de police. Le point avec Abdourahman Dia.
Selon un officier de l'armée camerounaise, lorsque des combattants de Boko Haram ont attaqué le village, les gens ont fui, mais ils ont été suivis par un jeune garçon qui portait des explosifs qu'il a actionnés dans la foule. Pour sa part, le Haut Commissariat pour les réfugiés a dans un communiqué fermement condamné cette attaque qui a tué 7 civils et blessé 14 autres dans le village de Kouyapé. L'agence onusienne a fait état d'une forte hausse d'incidents violents dans l'extrême nord du Cameroun, avec des pillages et des enlèvements par les groupes djihadistes actifs dans la région. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné cette dernière attaque qui intervient juste un mois après que des combattants présumés du groupe Boko Haram ont tué au moins 18 personnes et blessé 7 autres lors d'une attaque à la grenade contre un camp de déplacés dans le nord du Cameroun. Le HCR a déclaré qu'environ 7000 villageois camerounais près de la frontière avec le Nigeria ont quitté leur domicile depuis le 11 août pour fuir les violences dans la région.
À Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, des centaines de personnes ont marché jeudi pour exprimer leur soutien au prix Nobel de la paix Denis Mukwege, qui affirme avoir reçu des menaces de mort. Le point avec Eddie Isango.
La protection et la sécurité du gynécologue Denis Mukwege, prix Nobel de paix en 2018, a été la principale demande des manifestants. Des hommes, mais surtout des femmes, dont certains ont été soignés à l'hôpital des Panzi, ont participé à la marche. Les autorités doivent dénicher les auteurs des menaces contre le docteur Mukwege et la justice s'en charger, ont réclamé les femmes encadrées par des défenseurs des droits humains. Le gynécologue a deux jours plus tôt demandé devant le Parlement européen un tribunal pénal international pour les crimes commis en RDC depuis 1996. Malgré les menaces qu'il dit avoir reçues depuis quelques jours, Dr Mukwege réclame que les recommandations de l'ONU soient appliquées pour mettre fin à l'impunité. Le prix Nobel de paix a aussi condamné les récentes tueries et les viols d'élèves dans l'est de la RDC.
La Minute Éco, Claire Morin-Gibourg.
Au Gabon, la Société Nationale Immobilière a annoncé lancer un programme de régularisation des terrains à Bikélé. Selon le Nouveau Gabon, les habitants occupant de façon anarchique les terrains de l'État devraient bientôt bénéficier de titres de terrain. Ce programme de la SNI est lancé pour tenter de résoudre les problèmes de circulation et d'assainissement posés par les occupations sauvages. Au Cameroun, selon Eneo, le concessionnaire du service de distribution de l'électricité, les fraudes causent des pertes de 60 milliards de francs CFA par an. La société pointe que cette somme représente plus que le budget annuel des investissements, soit 45,7 milliards en 2020. C'est aussi l'équivalent d'au moins deux centrales solaires de 25 mégawatts ou du raccordement au réseau électrique de plusieurs centaines de localités, selon Eneo. Au Burkina Faso, le Trésor public a levé 22 milliards de francs CFA par le biais d'émissions d'obligations à 3 ans sur le marché financier de l'UMOA. Ces fonds sont destinés à assurer le financement du budget de l'État burkinabé. Pour le mois de septembre, les intentions d'émission de titres publics des autorités burkinabées se chiffrent à 45 milliards de francs CFA contre 50 milliards pour le mois d'août.
Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous, NBA, pour commencer, Miami a arraché au buzzer le deuxième match de la demi-finale de conférence contre Milwaukee 2-0, déjà dos au mur. De son côté, les Houston Rockets ont réussi à s'offrir une demi-finale de conférence Ouest face aux Lakers de LeBron James après leur victoire 104 à 102 dans le septième match au couteau face à Oklahoma City. Toujours ici aux États-Unis en tennis cette fois-ci, Serena Williams lancera la session nocturne sur le court d'Arthur Ashe ce jeudi pour la quatrième journée de l'US Open consacrée à la fin du deuxième tour. La quête d'un 24e titre majeur se poursuit donc pour la cadette des sœurs Williams face à la Russe Margarita Gasparian. Football, les entraîneurs de Bundesliga pourront procéder à 5 changements par match cette saison, comme c'était le cas depuis la reprise post-coronavirus en mai. La fédération a aussi annoncé que la règle des 5 changements serait autorisée en Coupe d'Allemagne et en Bundesliga féminine. Pour le retour des supporters au stade, les clubs sont d'accord pour que chacun puisse élaborer son propre concept avec les autorités de sa région ou de sa ville en fonction des règlements sanitaires locaux. Le RB Leipzig a été pionnier en la matière en obtenant l'autorisation d'accueillir 8500 spectateurs, environ 20% de la capacité de son stade, pour la première journée du championnat le 20 septembre contre Mayence. En Angleterre, l'association Kick It Out, entendez Dégageons-le, qui lutte contre l'intolérance dans le football, a annoncé une hausse de 42% des cas qui lui ont été rapportés dans le football professionnel la saison dernière. Selon le rapport annuel de l'ONG, 446 cas ont été portés à sa connaissance lors de la saison 2019-2020 contre 313 l'année précédente pour les divisions allant de la Premier League à la Ligue 2, entendez la 4e division anglaise. Les cas d'insultes à caractère raciste ont grimpé de 53% et celles liées à l'orientation sexuelle des victimes ont explosé de 95%, passant en un an de 60 à 117. La fin de la saison dernière a été marquée par l'hommage systématique des équipes de Premier League au mouvement antiraciste Black Lives Matter et les témoignages de joueurs sur les comportements insultants dont ils ont été victimes se sont multipliés. Cyclisme, un Kazakh au sommet de l'Aigoul, Alexei Lutsenko a remporté la 6e étape du Tour de France ce jeudi dans les montagnes de Cévennes où les favoris sont restés dans l'expectative Le Kazakh, champion du monde espoir en 2012, s'est imposé pour la première fois dans le tour à sa 5e participation. Demain vendredi, la 7e étape longue des 168 km entre Milo et Lavo ramènera le tour dans la plaine pour une nouvelle opportunité offerte aux sprinteurs avant l'entrée dans les Pyrénées.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sédia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, les autorités affirment que les économies des régions anglophones sont mises à mal par le conflit séparatiste qui dure depuis 4 ans. Les recettes fiscales dans le nord-ouest se sont effondrées, passant de 800 000 dollars par an à 1 000 dollars l'an dernier. La baisse drastique des fonds publics a eu des effets dévastateurs sur la région. Reportage de Moki Edwin Kinzeka, repris ici par Claire Morin-Gibourg.
Dans la région anglophone du Nord-Ouest, les séparatistes ont réussi à chasser presque tous les agents des douanes et des impôts, a déclaré Fotso Dominique, responsable économique de la région à la télévision nationale. Il a ajouté qu'une baisse de 90% des importations de matériaux de construction, de médicaments, de véhicules, d'électronique et de produits de base en provenance du Nigeria a été constatée.
Avant 2016, la perception des droits de douane s'élevait à plus de 200 millions de francs à Dongamantung. Au moment où nous parlons, Dongamantung a collecté l'année dernière moins de 500 000 francs et rien n'a été collecté dans la région de Mentum.
Le gouvernement camerounais a rapporté ce mois-ci que le deuxième employeur du pays, la Cameroon Development Corporation, a abandonné la plupart de ses plantations de bananes, de palmiers à huile et de caoutchouc. Elle doit jusqu'à 1 an de retard de paiement de salaire à 6 000 de ses 22 000 employés. La Palm Oil Company Pamol et d'autres sociétés agro-industrielles affirment qu'elles sont fortement endettées. Les institutions de microfinance qui alimentent les économies des régions anglophones se disent incapables de récupérer 50 millions de dollars de prêts. L'homme d'affaires Protus Onaga a failli perdre la vie pour avoir désobéi aux instructions des séparatistes de ne pas partir en voyage d'affaires la semaine où un verrouillage a été imposé.
Ce fut le moment le plus horrible de ma vie. Face à des hommes armés comme eux, et ils nous ont ordonné de sortir de la voiture. Même si nous avons vu nos affaires brûler, nous étions quand même reconnaissants à Dieu, car ils auraient dû nous brûler avec la voiture. C'est terrible, c'est lamentable.
Pour l'économiste Tasso Gérald, les conséquences de cette crise pèsent sur le gouvernement. Mais ce sont les civils qui souffrent le plus. Il s'agit de personnes dont les entreprises ont été incendiées par des séparatistes ou de personnes dont les biens ont été incendiés par l'armée qui les a accusés de soutenir les rebelles.
Cette situation a découragé les investissements dans cette région, ce qui implique une augmentation du chômage et une baisse du niveau de vie. De plus, la plupart des entités administratives locales ont du mal à régler leurs dettes et payer leurs travailleurs. Une autre conséquence est le quasi-effondrement du secteur du tourisme.
Malgré ces situations difficiles et la souffrance des populations, le gouvernement et les combattants ont maintenu leur position ces 4 dernières années. Les séparatistes demandent la création d'un État anglophone alors que le gouvernement soutient que le Cameroun ne peut pas être divisé. Selon les données des Nations Unies, ce conflit a fait plus de 3 000 morts et un demi-million de déplacés.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
En Tanzanie, la campagne électorale pour la présidentielle du 28 octobre bat son plein. Le principal parti d'opposition, le Chadema, veut faire chuter le président John Magufuli en poste depuis 5 ans. Ce dernier a lancé de grands projets d'infrastructure et lutté contre la corruption. Mais ses détracteurs l'accusent de réprimer les opposants et la liberté de la presse. Reportage de Charles Kombe à Dar es Salaam, repris ici par Jacques Aristide.
Comme 16% des Tanzaniens habitant en milieu rural, Zainabu Mohamed, 87 ans, vit sans électricité depuis 30 ans en raison de la cherté du courant. Mais elle croit que le projet hydroélectrique de Rufuji lui permettra enfin de voir la lumière au bout du tunnel.
Lorsque le projet d'électricité sera terminé, je n'aurai plus à utiliser la lampe à pétrole. Les choses iront mieux car j'aurai de l'électricité.
Ce barrage est l'un des méga-projets du président John Magufuli. Il devrait être achevé en 2022 et fournir 2100 mégawatts, soit le triple de l'énergie hydroélectrique que produit la Tanzanie actuellement, le président Magufuli.
Nous pensons qu'une fois ce barrage terminé, de nombreux citoyens cesseront d'utiliser du bois et du charbon de bois. Au lieu de cela, ils utiliseront de l'électricité à bas prix.
Mais la construction a lieu dans la réserve de Selous. Pour les écologistes, ce méga-projet de Rufuji, comme d'autres du chef de l'État, aura un coût. Frida Moussilimou étudie l'environnement.
L'écosystème de la réserve de Selous favorise spécifiquement la faune. Du coup, la construction de la centrale hydroélectrique dans cette réserve fera que certaines espèces dans cette zone vont disparaître.
Les partisans du président Magufuli notent que ces projets, tels que le chemin de fer pour relier le Rwanda et l'Ouganda voisins, aideront à stimuler l'économie. Mais ses détracteurs l'ont affublé du surnom de bulldozer, en raison de ses assauts répétés, selon eux, contre les opposants et les médias. Meksense Melo est fondateur de l'ONG Jamii Forum.
J'ai été interrogé à plusieurs reprises par les autorités, arrêté, détenu par la police et également mis en prison. J'ai été accusé de diverses choses depuis 2016 et j'ai été traduit en justice plus de 148 fois.
Tundu Lissu, le candidat du parti d'opposition Chadema, est rentré en Tanzanie en juillet dernier pour affronter John Magufuli. Tundu Lissu avait quitté le pays en 2017 après avoir échappé d'une tentative de meurtre. Singo Benson est secrétaire adjoint du Chadema.
Miaka Mitano. Au cours de ces 5 années, nous avons vu des partis politiques interdits d'exercer leurs activités, ce qui est contre la Constitution, contre la loi. C'est le premier coup porté contre la démocratie, car la démocratie inclut la liberté d'expression des citoyens et le fait d'avoir de nombreux partis politiques, des partis alternatifs capables de donner des idées alternatives.
En donnant le coup d'envoi en août dernier de sa campagne de réélection, John Magufuli s'est félicité que la Tanzanie est passée d'un pays à faible revenu à un pays à revenu intermédiaire. Alors que ses détracteurs craignent un net recul des libertés, les partisans du chef de l'État privilégient le développement économique pour un avenir meilleur.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis ont annoncé mercredi des sanctions contre la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda et Pakisu Mochochoko, un cadre de cette juridiction. Madame Bensouda a tenté d'ouvrir une enquête sur des crimes présumés qu'auraient commis des soldats américains en Afghanistan. En juin dernier, le président Donald Trump avait publié un décret autorisant des sanctions contre les fonctionnaires, employés et agents, ainsi que les membres de leurs familles immédiates travaillant à la CPI. Yacouba Ouédraogo a joint Bruno Stagno, directeur exécutif adjoint de Human Rights Watch.
Ils sont en train de geler tous les comptes bancaires, les avoirs que peut avoir Madame la procureure. Et étant donné la puissance financière des États-Unis et son rôle central dans tout ce qui est les échanges de devises depuis le dollar, ça veut dire qu'ils essayent de, en fait, éviter que Madame la procureure puisse faire des transactions, des virements, utiliser le dollar. Et c'est très troublant parce qu'en fait, ces types de sanctions financières ont été élaborées pour être imposées contre des gens qui commettent des graves violations de droits de l'homme, des soi-disant terroristes ou des soi-disant trafiquants de drogue. Mais ici, on parle d'un agent de justice, donc c'est une perversion totale de la justice et du mécanisme des sanctions financières.
Pourquoi les Américains ont sanctionné ces personnalités de la CPI, dont Fatou Bensouda, qui est la procureure?
Parce que la Cour s'est penchée sur des éventuels crimes de guerre commis par des forces spéciales et autres des États-Unis en Afghanistan. Et les États-Unis, ou au moins l'administration Trump, ils veulent croire qu'eux, ils sont totalement isolés, qu'eux, ils n'ont pas de compte à rendre à personne, et que ce n'est pas à une cour internationale basée à La Haye de déterminer, de faire des recherches, des enquêtes sur des éventuels crimes de guerre commis par des forces spéciales des États-Unis.
Justement, on sait que les États-Unis n'ont pas signé le statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale. Est-ce qu'il est possible pour la CPI de juger un citoyen américain, étant donné que son pays n'est pas parti de cette cour-là?
Oui, la Cour peut le faire, parce que ce qui compte, c'est le pays où les crimes ou éventuels crimes ont été commis. Dans ce cas, il s'agit de l'Afghanistan. Et donc, toute personne, indépendamment de leur nationalité, susceptible d'avoir commis des crimes qui sont sous l'égide de la Cour pénale internationale peuvent être donc enquêtés par la Cour. Dans ce cas, c'est des forces spéciales des États-Unis et donc parce qu'ils ont agi en Afghanistan, la Cour pénale peut se pencher là-dessus.
Bruno Stagno, directeur exécutif adjoint de Human Rights Watch. Environ un tiers des 240 000 petites entreprises de la ville de New York pourrait ne jamais rouvrir après la pandémie de coronavirus, selon un rapport du groupe d'affaires Partnership for New York, parmi elles de petites entreprises appartenant à des femmes. Nina Wishneva a parlé avec des femmes entrepreneurs de leurs efforts pour survivre. Récit de Michel Joseph.
Maya Acquaviva, propriétaire du restaurant Oda House, n'y a pas remis les pieds depuis sa fermeture en mars à cause de la pandémie. Pourtant, pendant plus de 7 ans, c'était comme une deuxième maison pour elle.
Ma grand-mère l'appelait sa maison Oda Sali. Oda House, une maison en bois dans les montagnes.
Les gens venaient ici à la recherche de cette sensation, ce goût maison. Oda House a été le premier restaurant de Manhattan à faire découvrir la cuisine de la lointaine Géorgie aux New-Yorkais.
Personne ne pensait qu'un restaurant géorgien serait un succès. Les gens ne savent même pas où se trouve la Géorgie. Et vous pensez que vos kachapuri, chakapuri et kinkali se vendront?
Le restaurant a survécu à de nombreux défis, mais la pandémie en est venue à bout. Le propriétaire a même accordé à une réduction de loyer, mais travailler uniquement pour la vente à emporter ne suffisait pas. Oda House a dû fermer, comme beaucoup d'autres restaurants de la région. Maya Acquaviva.
Rien que sur ce bloc, il y a 8 places vacantes. Mais qui pourrait se lancer dans la restauration de nos jours?
Oda House n'est pas seule à subir les revers et les travers du Covid-19. Depuis mars, environ 3000 petites entreprises familiales ont été contraintes de mettre la clé sous la porte. Les propriétaires espéraient survivre et malgré un plan d'aide fédéral, beaucoup n'ont pas survécu. Selon les chiffres du département du travail à New York, les petites entreprises emploient plus de 3 millions de personnes, soit environ la moitié de la main-d'œuvre de la mégapole. Bank Street, la plus ancienne librairie pour enfants de New York, a fermé ses portes. Caitlin Morrissey est la directrice de la librairie Bank Street.
Nous avons toujours été le lieu où les enfants pouvaient venir après l'école et s'asseoir et faire leurs devoirs, où les tout-petits peuvent venir un samedi matin et s'asseoir tous ensemble sur le tapis pour écouter une histoire, où les classes pouvaient venir avec leurs professeurs pour découvrir ce qu'est une librairie et pourquoi les livres sont importants.
Pour plusieurs générations de New-Yorkais, c'était la librairie préférée. Toutes ces années, elle a été gérée par des femmes. Avec le virus, les difficultés sont devenues insurmontables. Caitlin Morrissey, de la librairie Bank Street.
Maintenant, nous constatons que les clients nous commandent des livres à expédier ou bien disent « Nous ne vivons pas en ville, nous sommes partis au début et nous ne reviendrons plus. »
Lalita Kumut espère qu'elle n'aura pas à partir. Après 3 décennies de vente de parfums dans son magasin de Manhattan, elle constate amèrement que la demande a chuté.
What happened is, you know, the sale is
Ce qui s'est passé, c'est que les ventes ont baissé de 90%. Jusqu'à présent, personne ne vient. C'est peut-être une personne par jour et parfois personne.
Elle estime que sans l'aide de la ville, son magasin n'y arrivera probablement pas. En attendant, elle espère qu'un vaccin sûr et fiable viendra à temps pour sauver des vies humaines et des entreprises comme la sienne.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Seydoudia et de Michel Joseph à la Maison Monde. Bonne journée à l'écoute de VOA.